Salut les amis.
Salut Charline.
J'ai un truc important à vous dire. Ah, je voudrais qu'on prenne soin des invités.
Pardon ? Excuse-moi, quand on a eu Alexandra Lamy, on a bien pris soin.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, ça j'ai vu. Enfin, on doit prendre soin des invités masculins aussi.
Ah bah ça c'est toi qui gères, hein, Charline.
Ah,
bah, puis de toute façon, hier, ce Jean-François Stévenin...
Bah, il était très très chouette.
Oh, la prétention du gars.
Ah, mais oh, bon. C'est pas parce qu'il t'a pris de haut que...
Ah, hein, c'est pas moi qui l'a pris de haut.
Moi, quand je travaillais beaucoup avec Truffaut, j'étais plein de films avec Truffaut, ou Rivette, ou Jacques Rosier. J'adorais travailler avec eux parce que j'étais un super premier assistant, je peux le dire maintenant.
C'est peut-être vrai.
Ouais, bah, ça serait élégant de ne pas le dire quand
le
même.
Le pire, c'est que derrière, il met un petit taquet.
J'étais ravi de travailler pour eux, mais seulement ce qu'ils faisaient, ça m'intéressait, ça ne me parlait pas vraiment.
Mais bien sûr, le bonhomme, ça ne lui parlait pas, Truffaut, Rivette, Rosier.
Écoute, je ne comprends pas que ça te choque.
Non, mais Charline, c'est comme si on croise un jeune humoriste et qu'il vient nous dire Vizorek et Meurice, j'aime pas ce qu'ils font.
Ah, bah oui, ça serait faux et malhonnête.
Et voilà.
Ah, oui.
Et ce serait quoi un jeune humoriste pour vous?
Un petit gars qui n'en veut, quoi.
Bah, 25-26 ans, quoi.
Ah, ça tombe bien, vous allez pouvoir lui demander.
Pardon ?
Bah, tout à l'heure, on reçoit un jeune humoriste de 26 ans, vous allez pouvoir lui demander.
Et il en veut, ce gars-là ?
Ah, bah ça, il en veut.
Ah, bah alors, tu vas voir, tu lui demandes. Et si elle est honnête, il va bien te dire j'ai deux grosses références dans le métier.
C'est Meurice et Vizorek.
Et, voilà, et ça va bien te calmer.
Ah, ok, bah très bien, on lui demandera. Voilà, hein. Ça sera d'ailleurs ma première question à Kev Adams. Voilà.
Ah.
Allez, au boulot !
Ah, oui, non, ah, non. Oui, non, non, alors, oula.
Alors là, c'est peut-être toi un mauvais exemple.
Bah, oui, parce qu'il écoutait plus RTL, lui, je pense. Donc, c'est pas les mêmes influences.
Ouais.
Les grosses têtes.
Bonjour la France Inter, vous écoutez Par Jupiter, une marque de l'entreprise Radio France et Fils. Voici les trois informations que nous allons valoriser sur le marché de la blague. À Nice, trois écoles primaires vont tester un flic à l'école pour des raisons évidentes de sécurité. Il ne sera pas armé, mais il sera en uniforme et disposera d'un bureau. N'ayez pas peur les enfants.
Assurez-vous, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît.
Commander une pizza dans une soirée entre amis, ça peut coûter très cher en données numériques, plus qu'en monnaie trébuchante. En 2018, la soirée pizza est une maniaque de l'espionnite, alors que faire?
Ils savent qu'on utilise des pseudos, alors moi je prends mon vrai nom. Comme ça, ils se doutent pas de qui je suis.
Un rappeur reçoit le Pulitzer. C'est pas Gorafi, c'est Kendrick Lamar, couronné du prix Pulitzer de la musique. Et c'est une première pour le hip-hop.
Tu m'as touché, t'as vraiment un univers à toi.
Lui, il est couronné du prix Popek. Il a reçu son poids en caleçon molletonné. C'est Alex Vizorek.
On est bien reçu dans cette émission. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, je vous présente quand même la belle équipe. Autour de la table, à 17h20, sa dernière chronique, c'était sur le paiement sans contact. Et les effets ont été immédiats. Le syndicat des banques mondiales s'est complètement remis en question et a décidé de convertir tous ses comptes en sesterces. C'est vous Isabelle Sorande, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous parlerai de fleurs et de printemps.
Très bien. À 17h30, il a réalisé mon rêve, car
oui.
Depuis quelques jours, sur France Inter, on entend une publicité mentionnant la journée de la femme digitale. Il va donc se sacrifier pour faire tous les jeux de mots graves, le lui-même, Guillaume Meurice.
C'est vrai, bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Je me suis rendu à cette fameuse journée de la femme digitale, puisque c'était à la maison de la radio,
voilà.
C'est peinard. Et j'ai même rencontré un homme digital. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut rien dire.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait.
Et enfin, à 17h40, celui qui organise des voyages aussi bien que Jean-Vincent Placé organise des soirées thé dansant, c'est vous, Thomas Croisière. Bonjour.
Bonjour Alex.
Oui, c'est
moi,
le jour
je vais vous parler. Je suis désolé, c'est problème de lunettes de soleil. Moi, je vais vous parler du film de notre invité.
Et qui est cet invité?
Eh oui, je me tourne vers celui qui va participer à l'attractivité de la France Inter. Vous débutez le stand-up dès l'adolescence. Vous écumez les scènes ouvertes et un jour vous vous retrouvez à l'Olympia pour assurer la première partie de Gad Elmaleh. À 17 ans, vous êtes la tête d'affiche de la série télé Soda sur M6. Puis vous décollez au cinéma, notamment dans Les Profs de PEF. Et plus tard, vous jouez dans Les Nouvelles Aventures d'Aladin d'Arthur Benzaken et dans Un sac de billes de Christian Duguay. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Je suis là.
Il est là.
Il doit même pas
je
dire
suis
son
là.
On n'a plus besoin de dire son nom.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Par Jupiter.
Et qu'est-ce qui me prouve que c'est le vrai Kev Adams d'abord?
Absolument rien. Absolument rien. Je pourrais complètement être un clone.
Bon, alors, on va.
Je m'en excuse.
Il y a quand même une assurance capillaire qui n'est pas sans rappeler le vrai Kev Adams.
Bien entendu. C'est vrai que cette qualité capillaire ne se trouve que sur le vrai.
Et un costume, car on vous voit en costume dans Love Addict, un film de Frank Belloc qui sort en salle demain. Frank Belloc qui tournait la série.
Est-ce que je vous ai dit que mes deux grandes références dans l'humour. C'était Guillaume Meurice et Alex Vizorek, je vous l'ai dit ou pas?
Ah bah, ça, on savait pas, nous.
Est-ce que vous l'avez pas dit?
On vous l'avait dit ou pas? Je tiens juste à le dire comme ça, voilà, c'est important pour moi de le dire, c'est quand même.
Alors que vous avez percé dans le métier, eux, ils stagnent à la radio.
Alors, pardonnez-moi, mais je ne crois pas qu'être sur France Inter de manière quotidienne, ça s'appelle stagner, madame. Je crois qu'au contraire, c'est une grande marque de professionnalisme et je crois qu'au contraire, c'est une grande réussite. Non, mais en plus, sans blague, c'est important parce que je sais qu'on va parler de moi et ça me fait très plaisir pendant cette émission, mais pour parler un peu d'eux, puisqu'on peut pas faire ce métier sans regarder les autres humoristes, leur travail.
On était des bons contre-exemples, en fait.
Et croyez-moi, ils ont vraiment beaucoup de talent. Après, je n'écoute pas l'émission assez souvent pour savoir s'ils sont assez efficaces, Charline. Donc vous les gardez pas, c'est vous qui décidez. Mais ce que je veux dire, c'est que sur scène, ils envoient vraiment du lourd. Donc allez les voir, c'est important.
Et dites donc.
C'est belle solidarité.
C'est belle solidarité.
Bon. Alors... Non, c'est sincère, je ne dis pas ça à tout le monde, croyez-moi.
Merci pour eux.
De qui vous ne le dites pas, par exemple.
Et Alex Vizorek, vous le rend bien en ayant vu et en parlant avec vous donc de Love Addict, ce film qui sort en salle demain, avec notamment Mélanie Bernier, Marc Lavoine ou Michael Madsen.
Et plein de chouettes second rôles. Moi, je me suis bien marré. Alors, le pitch, parce qu'il faut toujours que quelqu'un se sacrifie.
Le résumé.
Oui, voilà.
C'est trop sympa de le faire.
Je vais
le faire.
Je
te remercie parce qu'on m'a demandé le pitch de ce film à peu près 573 fois durant les dernières semaines.
Kev Adams est un séducteur compulsif, c'est-à-dire que dès qu'il voit une femme, il ne peut pas résister. Il la séduit et ça fonctionne. Il habite avec son oncle, Marc Lavoine. Formidable Marc Lavoine dans le film.
Que je trouve vraiment brillant dans le film.
Ah oui, très très drôle. Qui lui a le même problème que vous, mais qui le vit moins bien parce qu'une histoire d'amour l'a un petit peu coincé dans son malheur. Et tout va bien pour vous. Vous êtes brillant dans votre boulot. Alors moi, j'ai une première question à vous poser qui n'est peut-être pas désintéressée. Comment on fait pour passer comme ça de comique sur scène à icône de la séduction au cinéma?
Sur un scénario. Ça se passe tout simplement sur un scénario. C'est un film. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que c'est inspiré de votre vraie vie? Est-ce que vous y avez mis du vôtre? Ce qui est assez incroyable, parce qu'effectivement, on me demande jamais ça. Sur les profs, on me demandait pas si j'étais un camp. Et sur Aladdin, personne m'a dit « Alors, tu fais du tapis volant le dimanche ?» Personne. Et donc là, c'est assez dingue de voir à quel point les gens rapportent ça à ma propre vie. Et c'est vrai que c'est un rôle de composition complet et que ça m'a vraiment fait plaisir, effectivement, d'être dans une comédie romantique un peu glamour, un peu élégante, comme on peut en trouver dans les comédies anglo-saxonnes. Donc voilà,
tout simplement. Parce que, bon, aujourd'hui, j'imagine que vous recevez énormément de propositions de scénarios. Vous avez le choix. Choisir ça, c'est un peu jouer aussi avec votre image. On avait diffusé ici le son. Quand vous grimez pour aller faire des vannes sur Kev Adams en tant qu'humoriste de scène et les gens se marrent parce que justement il y a plein de clichés sur vous et après vous enlevez la perruque et la barbe et on voit que c'est vous. Donc vous jouez aussi de votre image aujourd'hui.
Je crois que c'est important, surtout quand on sait que j'ai une image aujourd'hui qui divise, j'en suis très conscient et c'est aussi une chance et une force, je crois. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment et il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas ou qui m'aiment pas sans aucune raison ou pour des raisons qui sont les leurs. Et ce qui est sûr, c'est que c'est agréable de... Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui doutent de mon autodérision. Je m'en suis rendu compte au fil des discussions avec des amis, avec des proches. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « Mais non, lui, il a connu le succès trop tôt, etc. » Donc, il a l'impression qu'il est au top. Alors que ce que je préfère dans la vie, c'est rire avec ce que je suis et avec moi-même, avec justement les clichés qu'il peut y avoir sur moi. Donc, effectivement, ce sketch, c'était vraiment un délire schizophrénique que j'avais depuis longtemps, où je me suis dit « Il faut que je sois mon pire hater. » D'ailleurs, j'ai envie de garder ce personnage. C'est un peu mon double maléfique. Et sur ce film, tout à fait, vous avez raison. Ce qui m'a intéressé, il faut savoir qu'à la base, le scénario a été écrit pour un acteur d'une quarantaine d'années et que j'ai été voir l'auteur, Yael Kojo-Goldberg, j'ai discuté avec elle et je lui ai dit voilà, est-ce que ça vous dérangerait que j'essaye de défendre ce rôle? Elle m'a dit mais vous êtes un peu jeune. J'ai dit justement, j'ai l'impression que c'est moins glauque quelqu'un qui a une jeune trentaine et qui a envie de séduire tout le monde plutôt qu'un quarantenaire. Elle m'a dit ça se défend, pourquoi pas, travaillons. Et donc,
c'est moins glauque. Dites-le à Alex.
C'est moins glauque, n'est-ce pas, Alex?
Oui, je m'en rends bien compte. Et alors, par contre, on découvre, laissez-moi continuer cet entretien pour m'emmener. Je pense qu'il n'ira plus jamais chez Trapnard après mes interviews culturelles. Après, on rencontre Mélanie Bernier, qui est l'autre personnage important du film, qui est censé vous aider parce que vous avez envie de vous soigner.
C'est exactement ça qui m'a plu dans le film. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un personnage très différent pour moi. Donc, à défendre, il y a un vrai défi d'acteur et aussi un vrai défi de personnage. C'est-à-dire que c'est pas du tout, ça ne ressemble pas beaucoup au rôle que j'avais joué jusqu'à présent. Et c'était une des raisons sine qua non aussi très importante pour moi, c'est-à-dire que les autres rôles sont très importants. Le film tient sur les seconds rôles autant que sur les premiers. Et ça, c'était important de faire un film choral.
Michael Madsen, qui est quand même un acteur de Tarantino.
Et tout
qui
à fait.
Jouer,
Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est un film très éclectique et pour le coup, j'y suis pour rien. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Franck Belloc, le metteur en scène, qui a voulu des gens de tous les milieux. Donc on a Michael Madsen, qui est quand même un acteur phare de Quentin Tarantino, ce qui est incroyable. On va avoir Baté Gaël ou Jérôme Niel, qui sont des youtubeurs et qui sont issus de YouTube. On va avoir Zveva Alviti, qui jouait Dalida au cinéma pour Lisa Azuelos il n'y a pas si longtemps. et qui vient effectivement jouer la femme de Michael Madsen. Mélanie Bernier, qui vient effectivement du cinéma, d'un cinéma un peu moins populaire, parfois elle a tourné avec Rémy Besançon ou encore Jean-Jacques Hano. Donc c'est vrai que c'était très agréable d'avoir une actrice de cette qualité. Moi, qui suis quand même, qui vient au contraire d'un cinéma beaucoup plus populaire. Et puis quelqu'un comme Marc Lavoine, qui vient de la tradition des grands chanteurs français. Donc c'était très agréable d'avoir un casting justement très très éclectique, très différent. Ça nous permettait justement de rire les uns des autres et surtout de rire ensemble.
Kev Adams, bon camarade d'équipe, il cite tous ses camarades de tournage et de ce film.
Beaucoup, en tout cas.
Bien sûr, qui s'appelle.
Je ne les ai pas tous cités, attention, il y a encore d'autres acteurs formidables.
Mais ils sont moins bons.
Ça s'appelle Love Addict de Franck Belloc. Ça sort en salle demain et nous allons en reparler tout à l'heure, bien sûr, avec Thomas Croisière. En attendant.
J'adore ce nom, Thomas Croisière.
Ouais, c'est le Tom Cruise français.
En attendant, pour vous,
Thomas Croisière, c'est vraiment la classe. Quoi. Et pour Love Addict. S'appeler Jérôme Club Med. Tu vois, il y a un truc.
Ça permet de faire tellement de choses et d'animation, si tu savais.
Kev Adams dans Love Addict, c'est un séducteur. En voici un autre, Adriano Celentano.
Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci.
Con 24.000 baci. C'est Adriano Celentano, moi je vous le dis, sur France Inter, par Jupiter. Et c'est Kev Adams qui est avec nous. Hein.
Non mais ça c'est magnifique ça. J'ai été 3 fois à son concert à Rome. Non, bien sûr que non.
Moi ça m'a donné envie d'acheter de l'huile d'olive en tout cas.
Le mec est fort.
Je vais tomber dans tous les panneaux avec Kev Adams pendant une heure. Et il est au cinéma dans Love Addict qui sort en salle demain.
Non,
et
c'est pas lui, c'est pas vrai.
C'est pas Love Addict ? Allez-y, dites-nous qui est autour de la table, parce que je voulais prendre un. Vous allez prendre chèvre.
Il y a Isabelle Sorrente, Guillaume Meurice et le Tom Cruise français, Monsieur Thomas Croisière.
On va faire un petit point sur l'information, parce que généralement à France Inter, c'est parfois incomplet, les flashs, faut
bien
le dire.
Sûr.
Et nous, on complète un peu. Mais...
J'ai demandé à nos anciens un effort.
Comment ?
Le journal de presque 17h17.
On paye les impôts, bah, puis on a le droit de rien dire, faut subir.
Et on commence par les titres.
Ce matin, Emmanuel Macron s'est exprimé devant le Parlement européen à Strasbourg. Il a été interpellé par un eurodéputé écolo belge qui lui a offert une corde comme symbole de son expression « premier de cordée ».
Oui, car le Belge n'avait malheureusement pas trouvé de poudre de perlimpinpin à lui offrir.
La France veut retirer sa légion d'honneur à Bachar al-Assad.
Oui, bah si après ça, il n'arrête pas immédiatement ses exactions contre le peuple syrien, je ne comprends plus rien à la politique internationale.
Est-ce qu'il y aura des brèves ?
Oui, je sais que vous souhaitez me retirer des brèves, mais c'est non. Et commençons, une fois n'est pas coutume, par l'événement sportif du jour.
Ah. C'est la demi-finale de Coupe de France, Chambly contre les Herbiers.
Ah, oui. Et oui, Chambly, vous vous souvenez, c'est l'équipe pour laquelle Francis Lalanne a écrit la chanson pour les soutenir. Ne me regardez pas comme ça, madame, c'est véridique. Et France Télévisions a suivi Francis qui est allé emmerder les joueurs jusque dans les vestiaires.
Guitare en main dans les vestiaires du petit club de l'Oise, Francis Lalanne régale.
Là, ça commence à le faire.
Il apporte sa folie, on profite de ses chansons, de ses ambiances pour nous motiver.
Voilà, nous, on n'est pas contre Chambly, mais on est vraiment pour les Herbiers, parce que sinon, il va être obligé de nous pondre une nouvelle chanson pour la finale.
Pardonnez-moi, mais la différence en termes de vocalise est fantastique. On imagine Francis Lalanne, alors voilà, je vais vous chanter une petite chanson. Et lui, il est en train de dire, franchement, Francis, je défonce, truc de ouf.
C'est pas loin de ça, la vidéo, je vous la conseille.
Et en cuissard sur le terrain, magnifique.
Exactement.
Revenons à Emmanuel Macron et à l'Europe, à Strasbourg ce matin. Le président a haussé le ton pour répondre à ceux qui critiquent l'intervention militaire en Syrie.
Depuis qu'il a affronté Plenel et Bourde, si on l'arrête pas, il va provoquer Teddy Riner. Il est chaud comme un ballon.
Et il a terminé, le président, son discours en disant « Je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules ».
Et ça, c'est pas très gentil, parce que après chaque conseil des ministres, il voit Gérard Collomb piquer du nez, et c'est pas gentil.
Passons à l'international.
Oui, avec le son du jour.
C'est quoi, Alex ?
Eh bien, c'est Bachar el-Assad. Quand il a appris que la France voulait lui retirer la Légion d'honneur, il était en larmes.
Plaisanté.
Mais oui, je rigole, évidemment. Voilà comment ça s'est passé à Damas, quand il a appris que la France lui retirait la Légion d'honneur.
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles,
on s'en bat les couilles. Plus évidemment.
Mais
passons à la suite.
Ce matin sur BFM TV,
c'est vrai que c'est sa voix en plus.
Oui, oui.
Je reconnais bien là. C'est vrai, il a une voix un peu aiguë comme ça, très sympa.
Christophe Barbier, il avait cru avoir trouvé l'argument massue justement à ce sujet-là.
Et oui, l'éditorialiste Christophe Barbier qui dit, je cite, « On ne peut pas retirer la Légion d'honneur à Lance Armstrong et pas à Bachar el-Assad ».
Oui, sauf que la grande différence entre eux, c'est quand même que les produits chimiques de Bachar, on les a pas retrouvés dans son pipi.
Passons à la Belgique.
Oui, avec un mouvement qui est né, le gang des vieux en colère. Alors en France, ce sont les jeunes qui manifestent et qui luttent en ce moment. En Belgique, le gouvernement s'est attaqué aux pensions. Alors écoutez, l'un des leaders au micro de la RTBF du gang des vieux en colère.
Pour nous, c'est déjà pas facile, mais alors ce qui vous pend au nez à vous, les jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, c'est monstrueux. Un mouvement comme le gang des vieux en colère, ça n'a pas fait changer la vie d'un gouvernement. Mais un mouvement plus un autre mouvement, ça fait que le ruisseau devient rivière, se transforme en fleuve. Messieurs, mesdames du gouvernement, tremblez.
Vous étiez une dizaine au départ, vous êtes combien maintenant ?
On s'est mis sur les réseaux sociaux, on est dans les 2000.
Voilà, je l'ai mis sur France Inter parce que potentiellement il y a pas mal d'auditeurs qui pourraient rejoindre ce gang.
Bah oui, parce que les retraités en France gueulent aussi, je vous rappelle.
Ça donne envie de les rejoindre en tout cas.
C'est vrai. C'est vrai.
Allez, vous avez droit à deux brèves.
Deux brèves. Yveline, un policier se jette à l'eau et sauve in extremis une nonagénaire de la noyade. Et c'est un petit peu idiot parce qu'à 90 ans, avec l'ostéoporose, normalement elle flotte.
La dernière pour pouvoir attraper.
La dernière, c'est ma préférée du jour. Toulouse, deux points. Des parents veulent appeler leur enfant Djihad, le juge choisit Jaïd. Alors on dit souvent que la justice est aveugle, mais en fait, elle est dyslexique.
Merci Alex.
Oui, de rien.
Kev Adam, c'est un fou de brève. Hein. Bah, ça vous a beaucoup inspiré, ça aussi, dans l'œuvre de Vizorek.
Tout à fait. Mais il ne faut pas se fier à ses brèves. Allez le voir sur scène, faites-moi confiance.
Ah oui, mais il fait deux heures de brève.
Kev Adam, qui est au cinéma, mais tiens, il y a votre nouveau spectacle aussi. Soit 10 ans, c'est ça ?
Tout à fait.
Soit SOIS, 10 ans, à partir, ce sera à la fin de l'année. Hein.
Ça commence à la fin de l'année, au mois de décembre, toute l'année 2019. Voilà. C'est un spectacle pour célébrer 10 ans de scène, puisque j'ai commencé à jouer mon premier spectacle en 2009. Qui s'appelait The Young Man Show, et voilà, soi-disant, en 2019, partout, en France, en Belgique, évidemment, et en Suisse,
bien
partout.
Sûr. Kev Adams avec nous, et parlons un petit peu de la ville de Nice et de son maire, Christian Estrosi, qui mène une petite expérience, écoutez bien, la présence de policiers en uniforme, mais non armés, dans 3 écoles primaires, afin de renforcer la sécurité. La mesure est moyennement bien accueillie, tant par les enseignants que par les policiers, d'ailleurs, écoutez.
Alors, c'est quoi encore le problème, monsieur Gadget ?
Ils m'ont refilé un nouveau partenaire. Une latino par-dessus le marché. Pourtant, je leur avais dit que je bossais en solo.
Ah, pourquoi ils ont fait ça, tiens ?
Soi-disant que l'enquête piétine. Comme si un bleu allait faire avancer les choses.
Il faut absolument que nous retrouvions le sac à dos violet de Pablo.
Ta gueule. Ça fait 6 mois que je suis sur cette affaire de sac à dos. Tu crois peut-être que tu vas m'apprendre mon métier?
Je suis sûre que c'est un coup de Chipster.
Et moi, je suis sûre que c'est un coup de négro.
Aide-moi à retrouver Chipster. Est-ce qu'il est derrière la porte? Ou bien derrière le bureau?
Quoi? Mais qu'est-ce que... Goku, quête cette taser dans tes burnes.
Ça va se passer comme ça, les flics dans les écoles, bien sûr. C'est un extrait de la série animée qui s'appelle Les Cassos. Et qui mixe un petit peu...
Vous regardez les trucs des jeunes, vous?
Alors, je dois remercier notre stagiaire, Mathias Volant,
ah oui, forcément.
Qui a trouvé ce que moi, ça m'était passé complètement
au-dessus. Qui a 8 ans et demi, hein,
le lapin du métro est en culte dans Les Cassos, pour ceux qui connaissent.
Ah, on a des enfants à la maison, vous.
Qui est madame? On se disait un flic en uniforme, à l'école primaire, qui aurait même un bureau dans l'établissement. Je me demandais, est-ce que ça vous inspire une réflexion? Est-ce que vous voyez, Mino, nous tous, on peut se projeter, comme ça, il y avait déjà le pion, il y avait le dirlo, maintenant il y a le flic. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Kev Adams?
Sur le principe, je trouvais que c'était, quand j'ai lu la news, j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne idée, vu dans quelle époque on vit, pour défendre un petit peu les enfants. Depuis l'affaire Mera à Toulouse, je trouve que c'est une bonne idée de défendre notre jeunesse. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas armés. Donc en fait, c'est juste, je ne comprends pas bien l'intérêt de ce dispositif, quoi. Si ce n'est effectivement d'avoir un flic dans l'école et pouvoir enfin voilà, ça va devenir
face
le
à un terroriste, c'est sûr que le flic non armé peut pas faire grand chose. Mais est-ce que le flic qui serait armé dans l'école, c'est pas un peu dangereux?
Non, mais je pense pas qu'il doit être armé. Après, encore une fois, c'est mon avis, je travaille pas en politique et je suis certainement pas le mieux placé pour. Mais je
nous
pense
non plus
que,
rassurez-vous.
Ils disent dans la presse et dans les médias qu'ils veulent lui accorder un bureau au sein de l'établissement. Donc je pense qu'effectivement, s'il y avait une arme dans ce bureau, qui serait constamment fermé à clé ou qui serait loqué, j'en sais rien, de manière à ce que les élèves évidemment ne puissent jamais jouer avec, ce serait plutôt cool parce qu'effectivement, si demain il y a un terroriste qui arrive exactement comme il s'est passé sur l'affaire Mera, je vois pas vraiment ce que vont pouvoir faire les policiers, quoi. Donc voilà, c'est mon avis. Après, encore une fois, il y a certainement des gens.
Oui, alors c'est un sujet qui divise énormément.
Même les
Français,
c'est une avancée, je trouve que c'est plutôt bien de, au moins ça. Mais
l'agent sera présent aux portes de l'école au moment des entrées et des sorties.
Ça
et
lui
alors,
fait pas de mal d'aller à l'école un petit peu. Enfin, voilà, pour l'accord du participe, c'est des choses à rattraper.
Et il sera en lien direct avec des patrouilles de police municipale qui elles seront armées et pourront intervenir en quelques minutes. Voilà,
c'est rassurant.
Oui, mais du coup, être en lien avec des patrouilles qui peuvent être là en quelques minutes, on revient à ce qu'on avait avant déjà, puisque les directeurs étaient déjà en lien avec la police.
Donc évidemment, on se demande si ça sert vraiment à quelque chose là.
Est-ce que ça serait pas un coup de com à la con? Voilà. Je pose la question.
De Christian.
Après, c'est dans 3 écoles. C'est dans 3 écoles.
C'est ça,
il va tester.
Dans 3 écoles.
Si ça marche pas, au revoir, merci, bonsoir.
Mais j'ai hâte de lire la news. Le policier s'est fait racketter par des élèves de 5e B.
Kev Adams avec nous et à côté de vous, il y a Isabelle Sorante.
Alors, vous avez reconnu la bande originale du film Hair. Je vais vous parler du Flower Power, le pouvoir des fleurs.
Flower Power?
Yeah. Je ne croyais pas faire partie des gens photosensibles, ces gens que le manque de lumière finit par rendre fous. Mais depuis que le soleil revient, je me rends compte combien le printemps me manquait. Le printemps, en ville, ce sont les gens rayonnants, épanouis, qui prennent des verres en terrasse. Ce sont aussi ces fleurs minuscules qui crèvent le béton pour pousser, on ne sait pas trop comment. Je ne sais pas si vous voyez de quelles fleurs je parle, elles sont souvent jaunes ou violettes, Charline. Ce sont des petites fleurs qui ont le pouvoir de crever le... Excusez-moi.
Vous êtes en train de vous écouter en même temps, ne faites pas ça.
Nous
on s'est rendu compte un petit peu. Mais
de crever le béton et de pousser dans les endroits les plus improbables, je vois ces fleurs comme des symboles de ténacité et de résistance. J'ai aussi remarqué une chose étrange en ce printemps 2018 toujours, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de fleurs sur les robes et les chemisiers. Il y en a même beaucoup plus sur les robes et les chemisiers que dans la vraie vie, de moins lorsque vous habitez en ville. Cela finirait presque par devenir angoissant, toutes ces robes à fleurs, tous ces chemisiers fleuris, toutes ces fleurs imprimées dans les boutiques de fringues, il n'y en a jamais eu autant, ça n'est plus une mode, c'est une obsession. Au point que je me suis demandé, en flânant comme d'habitude dans la galerie marchande aseptisée juste à côté d'ici, si l'omniprésence des imprimés à fleurs en ce printemps 2018 n'entretenait pas une sorte de rapport mystérieux avec les catastrophes écologiques auxquelles nous semblons par ailleurs totalement indifférents. Comme la disparition annoncée des abeilles, celle des bourdons et des autres animaux pollinisateurs. Comme si notre besoin de fleurs devenait désespéré. Comme si on voulait voir des fleurs à tout prix en ce printemps 2018, alors même qu'un récent article paru dans la revue Frontiers in the Ecology and the Environment.
J'adore ça.
Oui, c'est assez. Hein, oui.
Vous êtes abonné.
Ça annonce la disparition qui menace les lézards et les petits rongeurs, hein, un article récent. Et les lézards et les petits rongeurs sont, vous ne le savez peut-être pas, eux aussi, des animaux pollinisateurs. La disparition de ces animaux discrets, qui semblent à présent aussi probables que celle des insectes, pourrait réduire la production de graines et de fruits de plus de 60% et nous précipiter dans un monde sans fleurs qui deviendrait vite un monde affamé. La mode, en ce printemps 2018, nous offrirait-elle une compensation inconsciente, une sorte de dernière floraison ? L'inconscient collectif nous jette des fleurs. Mais quelque chose me dit que ça n'est pas pour nous féliciter du dynamisme de la croissance. Parce que les fleurs ne sont pas dynamiques, elles ne peuvent pas résoudre leurs problèmes en se déplaçant, en fuyant ou en bondissant sur leurs prédateurs, ce qui ne les empêche pas d'être intelligentes, selon Stefano Marcuso, le fondateur du Laboratoire international de neurobiologie végétale, dont le dernier livre, L'intelligence des plantes, best-seller dès sa parution en 2013, vient enfin d'être traduit en français. C'est d'ailleurs le livre dont je voulais vous parler. Mais je ferai vite. Stefano Marcuso y explique pourquoi les plantes sont, selon lui, aussi intelligentes que les animaux. Si l'intelligence est la capacité à résoudre des problèmes, Alex, alors oui, les fleurs sont intelligentes. Les fleurs sont capables, si des insectes les dévorent, d'appeler des fourmis au secours en déclenchant la diffusion de substances additives pour les fourmis. Le plus fascinant, c'est que ça n'est pas une réaction chimique automatique. Les fleurs choisissent la dose de drogue qu'elles répandent en fonction de ce qu'elles attendent des fourmis. Une simple ronde pour sécuriser les environs ou une attaque en règle. Les fleurs sont capables de droguer leurs armées. Pour se débarrasser de leurs ennemis, elles sont capables de leurrer les insectes passionnés dont elles imitent les couleurs. Pour les attirer à elles lors de la saison des amours, elles sont capables de communiquer entre elles. Les fleurs sont des intelligences immobiles. C'est aussi pour cela que nous ne les voyons pas comme de véritables êtres vivants. Parce que les animaux que nous sommes avons l'habitude de résoudre nos problèmes par la fuite ou l'attaque, c'est-à-dire par un mouvement. Nous ne sommes pas entraînés à déceler l'intelligence ni la vie lorsqu'elles sont immobiles et c'est sans doute dommage. Le burn-out, le surmenage et la dépression sont les maux de l'animal qui court toujours plus vite dans un monde sans fleurs. Peut-être que les plantes ont des secrets à nous apprendre, peut-être que nous survivons au lieu de nous épanouir. En attendant, pour l'animal qui ne sait pas ce qu'il fuit ni vers quoi il court, il reste les galeries marchandes et les imprimés fleuris.
Merci Isabelle Sorrente. Et nous allons donc passer de la neurobiologie végétale au calembour de Thomas Croisière, Sissi, qui nous parlera du film de Kev Adams, notre invité.
C'est un peu la douche écossaise.
Le ouais, film,
c'est de l'intelligence immobile.
Le Vadict. Ça se rend sale demain avec Kev.
Il était une fois dans l'Ouest encore sauvage, un peintre armé de lettres, un vrai tueur à gages. Avec la jeune Houston, il vanne et se pavane. Il flambait des dollars, 30 ans avant Swagman. Jadis, il mélangeait à l'arrière des saloons des mélodies châtiées au rythme boum, boum, boum. Et dans les plaines immenses de vieux tubes en faïence, la magie de Gainsbourg a peuplé le silence.
Super King's Bar.
Chassé de la cité, le jeune scribe chétif a tatoué sur le cœur l'étoile d'un shérif. Il masque ses démons en annonçant des psaumes qu'il note sur sa paume dans une rôle ce fantôme. Flic, flank, spliff, stupé, sing, sing. Bébé et petite pépé, pin-up comme bling bling. On peut frotter des lampes et écumer 15 bars. Ça ne fera pas apparaître le génie d'un 15 bars.
Super King's Bar. The man with the cabbage head. Super King's Bar. He knows the tricks of the trade. Super King's Bar.
C'est l'homme à la tête de chou.
Bar, the man with the cabbage head.
MC Solar avec Maureen Angot sur France Inter par Jupiter. Nous sommes en compagnie de Kev Adams, dont le film Love Addict, où il apparaît, c'est pas vous qui l'avez réalisé, c'est Frank Belloc.
Il apparaît souvent.
Tenez l'affiche, Kev Adams, avec Mélanie Bernier et aussi notamment Marc Lavoine ou Michael Madsen. Et ce soir, tiens, votre spectacle avec Gad Elmaleh, enregistré en 2016, Tout est possible, il est diffusé à la télé à 21h sur W9.
Exactement, Charline. À la télé.
Et vous pourrez constater à quel point Guillaume Meurice vous a inspiré très jeune, Kev Adams, et on va le constater aussi tout de suite avec vous.
Bah vous savez, Charline, quand on a une chronique quotidienne, bah faut trouver les sujets. Alors des fois, faut chercher, puis des fois, c'est les sujets qui viennent à vous directement. Et aujourd'hui avait lieu la journée de la femme digitale. Où ça ? À la maison de la radio, nom de Dieu. C'est comme si le dieu de la chronique m'avait dit « Bon, t'as bien cravaché mon petit, descends au rez-de-chaussée et fais-toi plaisir ». Alors la journée de la femme digitale, rien que dans « Femme digitale », il y a déjà beaucoup trop de jeux de mots qui mèneraient Jean-Marie Bigard directement à l'Académie française. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a autour de la table des femmes digitales, Charline ?
Non.
Non, d'accord. Vous voulez pas me refaire la blague que vous avez dit au bureau tout à l'heure.
J'ai dit, moi je suis vaginale.
Voilà.
J'assume. Voilà.
J'assume les enfants.
La blague. Voilà.
Femme génitale. Alors plutôt que digitale, Isabelle, quand vous partez en croisade contre le paiement sans contact ou les trottinettes ou les fleurs, il y a peut-être de la femme digitale en vous qui s'ignore. Alors pour que vous compreniez bien le concept de femme digitale, je suis allé voir des participantes à ce grand colloque.
Nous, on est partenaires de la journée de la femme digitale.
Justement, qu'est-ce que c'est une femme digitale ? Ça m'a interpellé, moi.
Enfin, pour moi, après, une femme digitale, c'est une femme qui est à la fois connectée, mais qui sait aussi faire la part. Enfin, pour moi, il faut faire la part des choses. C'est vrai qu'il faut savoir être dans la réalité.
C'est pas évident.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué de définir. En
fait. C'est pas simple. Elle est un peu buggée, d'ailleurs, cette femme digitale.
C'est génial, parce que quand même, il y a des gens qui vont à ce truc, tous ensemble. Et ils te disent, ouais, c'est la journée de la femme digitale, un peu sérieux, genre c'est quand même un truc important. Mais qu'est-ce que c'est ? Et là, on est rentré dans un délire, il faut l'entendre. Hein. Bah, on sait faire déjà la part des choses, déjà on fait la part des choses, c'est quand même génial.
Non, elle a bugué.
Non, mais ça raconte un truc fort sur notre société, on adore tous aller ensemble dans des trucs, on sait pas vraiment ce que c'est.
Et là, c'est que le début. Non, mais bon, on met ça sur le compte du bug, et c'est l'avantage du digital, c'est qu'on peut rebooter contrôle là-dessus, et normalement, la femme digitale repart. Petite astuce que je vous donne. Alors ça ne vous donne pas quand même la vraie définition d'une femme digitale, essayons avec une autre.
Ben, c'est une femme qui vit dans son temps et une femme qui est un peu plus visionnaire que celle qui finalement reste un peu sur des acquis, d'une manière un peu plus classique, je ne sais pas.
Elles sont nulles les femmes pas digitales alors ?
Non, pas du tout, elles sont nature.
Mais oui, brute. Alors la femme digitale n'est pas une zadiste, hein. C'est pas une punkette à chien. Zaz, par exemple, n'est pas une femme digitale, sachez-le. Là, on commence à avoir se dessiner un profil en creux de la femme digitale, une sorte de version upgradée de la femme lambda. Alors, quand on parle de femme digitale, on parle de quoi aussi ?
On parle d'empowerment de la femme, donc quelque part, c'est quelque chose qui va lui donner aussi pas mal de...
On parle de quoi, pardon ?
D'empowerment. Exactement.
C'est-à-dire,
on prend du pouvoir en tant que femme aujourd'hui.
Ah oui, empowerment.
Bah oui.
Empowerment. Ok, j'avais pas encore bien tous les codes. Hein. Moi, je viens de l'ancien monde, celui où pas besoin de rajouter de l'anglais pour embrouiller les gens. Là, on est dans l'enfumage, hein, l'enfuming, hein, comme on dit maintenant. Alors, on parle d'empowerment, mais on peut parler encore d'autre chose.
Il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas encore traités, du mentoring, du coaching. Et en fait, c'est un réseau qui permet.
Voilà, attendez, parce que là, je pige rien du tout. Du quoi ?
Du mentoring. Donc, c'est comment aider les femmes, en fait. C'est simplement de l'entraide et c'est aussi avoir. Voilà,
mais pourquoi on ne dit pas de l'entraide directement ?
Ah, mais parce qu'il faut être à la mode. On parle de digital, donc on parle de mentoring.
Oui, bah attention, parce que moi, je débute hein, en femme digitale. Moi, le mentoring, je pensais que c'était quelqu'un qui était en train de mentir. Hein, j'ai confondu avec le balkaning. Alors, comme quoi, je suis vraiment la ramasse. Mais bon, je demande qu'à apprendre et apprendre en bonne compagnie.
Alors, en fait, moi, je suis une femme de l'IT et en fait, je suis cofondatrice du réseau féminin.
Attendez, vous êtes une femme de
l'IT.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est une femme qui, quand elle regarde les télés, elle regarde en replay. En même temps, elle tweet sur son téléphone. Et puis, elle a programmé son robot pour faire à manger.
Bam ! Alors, ça vous calme bien, hein, les femmes pas digitales là, qui sont là. Je suis sûr que vous regardez la télé en direct, vous. Oh, les ringardes. Avec votre Minitel. Et vous n'avez même pas de robot, je suis sûr, pour faire à manger. Ça, c'est parce que vous ne bossez pas avec Nagui.
Je vous ai dit, je ne suis pas digitale.
Parce que Nagui, il va vous faire des Magimix, je vous rappelle, à ses équipes à Noël. Alors que nous, on peut toujours se brosser. Hein, pour un épluche carotte de la part de Charline. Espèce de femme pas digitale, va. Femme du passé. Parce que la femme digitale, elle s'inscrit où ?
C'est une femme qui s'inscrit dans le futur, on va dire.
La femme digitale s'inscrit dans le futur ?
Ouais. On est toutes des femmes digitales pour moi.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah bah donc, c'est l'équivalent de la journée de la femme tout court, alors.
Enfin, la femme digitale, c'est bien, mais.
La femme du cours, c'est bien sûr.
Ah bah, ça valait bien le coup de nous emmerder avec une journée de la femme digitale. Alors, on connaissait le greenwashing qui permet aux entreprises de passer pour écolo. On connaît désormais le meufwashing qui permet aux grands groupes présents ce matin de se faire passer pour des féministes, alors qu'ils ne respectent pas l'égalité homme-femme ni dans les salaires ni dans les cadres dirigeants. C'est moderne, c'est digital. Alors, puisque c'est comme ça, merde, concluons avec un homme.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une femme qui n'est pas digitale pour qu'elle devienne une femme digitale ?
Suis le mouvement.
Ouais. Est-ce que ça, ça fait pas un peu mouton digital ?
Je sais pas, si la démarche elle est bonne et qu'elle va dans le sens de l'histoire, c'est plutôt bénéfique pour tout le monde.
Allez, allez, femme de la préhistoire, va dans le sens de l'histoire, pense que ça va être bénéfique pour tout le monde, deviens une femme digitale et obéis aux critères de la Startup Nation, au l'œil, à l'œil et au doigt.
Merci Guillaume Meurice. Et il s'en passe des choses à Radio France, ah parce oui, qu'on va se venir. Retrouver demain soir, les garçons seront en robe.
Ah oui,
ouais, parce que demain soir sur cette antenne, on fête les 30 ans de la fin du cancer de Pierre Desproges, avec un tribunal des flagrants délires version par Jupiter, soirée présentée par Antoine de Cône, avec des chanteurs aussi, on vous dit pas tout, mais de l'équipe, il y aura Pablo Mira, Frédéric Fromet, Hippolyte Girardot, Christine Gonzalez. Donc demain soir, le prime time, c'est la radio, les gars, hein, c'est pas la télé.
On y ce sera. Soir, qui est Madame Scadenelle.
Ce soir, c'est demain, voilà, exactement. Voilà. Beau
tout
programme.
Tout
beau
bon,
programme.
Alors là, autant vous dire que les femmes digitales vont s'éclater.
On est complet. Avec vous, Kev Adams, c'est cet autre sujet. Une bête soirée pizza entre amis à l'ère numérique, ça coûte très cher
j'ai
en données.
J'ai trouvé cet article génial, vraiment.
C'est vrai ? Ouais. Ah, vous allez me dire pourquoi. Alors, je vais expliquer, c'est le Wall Street Journal qui a enquêté pour savoir ce qu'on offre de nous aux GAFA en rameutant les potes à la maison par WhatsApp. Ils se déplacent avec Google Maps, on commande une pizza avec la carte bleue, puis on diffuse une playlist sur des enceintes connectées. Voilà ce que ça donne, grosso modo.
Ça, c'est ses défauts. Elle est fan de George Michael, elle connaît par cœur Dirty Dancing et elle a plus de sensibilité à l'épaule droite. Oui. C'est une blague.
Mais t'as oublié qu'elle mangeait du roquefort au petit-déj ?
Waouh, la dingo, elle bouffe du roquefort au petit-déj.
Non, il y a ça aussi, Alex, écoute. En 98, à 20 ans, elle réussit le concours d'entrée à HEC. Et là, sans explication, elle disparaît, sans donner de nouvelles à personne. Elle réapparaît un an plus tard, oublie HEC et commence des études d'œnologie.
Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant cette année ?
Personne n'en sait rien, même son père, il sait pas.
Personne n'en sait rien.
C'est Romain Duris et Julie Ferrier dans L'Arnaqueur de Pascal Chaumeil.
Super film d'ailleurs.
Ouais, oui, c'est vrai que
c'est
un très bon film.
C'est une des meilleures comédies romantiques françaises.
C'est juste.
J'en parle parce que je suis venu aussi vous parler d'une comédie romantique française.
Il y a des soirées pizza dans votre comédie romantique, Lovadic ?
Non, il n'y a pas de soirée pizza. Non. Mais
vous en faites entre potes vous...
Bien sûr, très souvent. Très, très souvent. Écoutez, j'ai lu cet article et je trouve parfois qu'on cherche un peu des problèmes là où il n'y en a pas. Mm-hmm. En gros, ce qu'ils expliquent dans cet article, c'est tout simplement de dire aujourd'hui, si vous faites une soirée pizza à la maison, vous commandez vos pizzas sur Amazon. Bon, déjà, il faut être une femme digitale. Hein, parce que moi, perso, je commande toujours mes pizzas en appelant le gars au téléphone et quand il est toujours le même gars et ça capte mal et il me dit vous avez dit champignons ou chèvre ? C'est toujours pareil.
Mais après, là, certains le font par appli, c'est pour ça.
Voilà, là, ils partent du principe qu'on commande sur l'appli, ce qui me va très bien. Et puis, effectivement, ils t'explique qu'ils peuvent retracer en fait toute ta soirée, les numéros de carte bleue, le moment où tu as été chercher ta pizza, à quelle heure, comment, avec qui et après quel film tu vas regarder en mangeant ta pizza. C'est vrai, tout ça est vrai, on le sait moi je le sais déjà quand je commande un film sur iTunes et que je le regarde ou quand je commande une pizza sur internet, je sais que tout ça est traçable. Ouais. Maintenant, je vois pas vraiment en quoi c'est un énorme problème quoi, parce qu'on nous le présente un peu dans cet article comme un problème, comme un truc de genre vous êtes épié, vous êtes chassé, vous êtes. En même temps, ça fait partie du truc, quoi. On sait très bien que
la récupération de données. Ouais.
Mais évidemment, on sait très bien que quand on va sur Facebook, on sait très bien qu'ils ont pas fait Facebook pour nos beaux yeux. On sait qu'il y a un business derrière. On sait qu'ils prennent nos données et qu'ils s'en servent et qu'ils les vendent. Et c'est pas pour rien qu'on reçoit de la pub pour les trucs qu'on aime bien, n'est-ce pas, Guillaume ? J'ai vu la pub Pornhub sur tes mails. Tu vois, c'est pas pour rien, quoi. Je veux dire, ça, tout ça est logique. Et je trouve qu'on essaye de faire un peu flipper les gens sur des trucs où il y a pas lieu d'être. Quoi.
C'est un problème nouveau, en fait. C'est nouveau. C'est un problème qui se pose à l'humanité, qui n'existait pas avant.
C'est vrai.
Le fichage à très grande échelle, en fait.
Et le scandale donc Cambridge Analytica où on a été où 87 millions de personnes, je pense aux États-Unis, ont été profilées, les données ont été vendues et utilisées et sans doute.
À partir du moment où nous on les donne, je suis assez d'accord avec lui. Hein,
ouais,
quand
donne,
c'est gratuit, c'est toi naïf, le produit.
Oui. Kev Adams, vous sur les réseaux, vous mettez pas de trucs perso, vous mettez
non,
des trucs
jamais.
Pro, c'est ça. Donc déjà vous contrôlez d'une certaine manière quand même.
Oui, et puis je mets des trucs perso, mais effectivement contrôlés. C'est-à-dire que là récemment j'ai mis une photo de moi quand j'étais petit. Enfin voilà quoi, je sais très bien que cette photo elle va être reprise partout. Je sais qu'effectivement, de l'endroit où ça va être posté, ils vont savoir que j'ai posté ça à cet endroit. Je sais qu'effectivement, qu'ils vont regarder mes reach et combien il fait de likes par post. Est-ce qu'on peut se servir de lui pour faire de la pub? Tout ça est très logique. Enfin, je veux dire, il y a aucun problème là-dessus. Et je pense que c'est soit t'acceptes de jouer le jeu et tu t'en sers, soit dans ce cas, il y a pas de problème. Soyez des femmes non digitales. Qu'est-ce que vous voulez que je vous
dise ? Et donc, allez à pied chercher la pizza, comme ça, oui, la NSA ne saura pas que vous
exactement
la prenez avec des morceaux d'ananas dessus.
Si vous prenez le métro, ouais, c'est foutu.
C'est vrai. C'est juste. Moi, je fais des tickets de métro.
Ah, ça, c'est bien.
Comme ça, okay, je suis pas fliqué.
Vous êtes une résistante, Charlie.
Ah, ouais, complètement.
Je savais pas qu'on parlait épilation aujourd'hui. Écoutez, je suis un peu choqué, je vais pas vous mentir.
Qui est madame ?
On a parlé digital.
Face à vous, il y a le célèbre Thomas Croisière.
Oh là là.
Par Jupiter présente. Le cinéma de Thomas Croisière.
Bonjour Kev Adams, j'imagine que vous vous souvenez de moi, Thomas Croisière, le Tom Cruise français. Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans alors que j'étais animateur de soirée privée sur le Move et que vous veniez nous présenter les premiers épisodes de Soda, votre pétillante série. Depuis, vous avez bourré tous les zéniths de France, cumulé plus de 15 millions d'entrées en 15 films, tourné à Hollywood, vous avez même pécho au Miss Univers pendant que moi, je devenais le chroniqueur de Par Jupiter qu'on appelle quand les autres sont en vacances. Que de chemin couru par nous deux. Aujourd'hui, vous venez nous présenter Love Addict, film dont vous tenez le rôle principal et êtes l'heureux producteur. Love Addict raconte l'histoire de Gabriel qui pourrait mourir d'amour enchaîné, un amoureux compulsif qui décide de faire appel à une coach pour le soigner de son addiction aux femmes. Bien évidemment, il y aura toujours quelques grincheux, surtout sur cette antenne, pour affirmer que votre film est une succession de sketchs inégaux, que son intrigue est à la fois décousue et cousue de fil blanc, qu'il est inacceptable à l'époque du hashtag MeToo de parler de giflons, vous savez, des gifles avec des nichons, des giflons quoi, qu'il est strength fair button depuis la convention des cahiers du cinéma de 1966 de faire des plans avec une caméra qui tourne autour d'amoureux qui s'embrassent à en faire bander Claude Lelouch. Il y aura toujours des aigris pour vous dire que sur le même thème, il vaut mieux regarder L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut et se répéter en boucle cette citation éternelle « Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie ». C'est tellement juste. Mais voilà, Charles Denner est mort et Truffaut est devenu pépiniériste. J'admire votre désir de kiffer, Kev Adams. Il est foutrement communicatif. Vous souhaitez ouvrir votre film sur le Carmen de Bizet avec en bonus la version d'Orelsan et Stromae ? C'est fait. Vous voulez vous la jouer gangster de l'amour avec un rôle à faire pâlir le Don Draper de Mad Men ? Bam, vous le faites. Et vous savez quoi ? Je me suis délecté de votre torse sensuellement épilé et de votre regard vers noisette dont le coefficient de hotness contribue à la disparition des ours polaires. Désolé Guillaume. Vous rêviez que Marc Lavoine se mette à singer Gomez de la Adams Family ? Il est au maquillage. Vous brûliez que Svelva Alviti, la bombe italienne qui ira en Dalida vous vampe en ondine humide sur le concerto pour une voix de Saint-Preux, c'est dans la boîte. Vous désiriez que vos potos, Baté Gaël, Big John, Guillaume Turin ou l'exceptionnel Claude Perron viennent jouer avec vous, ils sont tous là. Vous escomptiez le jeu de mots Henriette de Canard, eh bien non seulement vous le tournez mais en plus vous ne le coupez pas au montage et au plus profond de moi. Je suis totalement solidaire de cette démarche. Vous fantasmiez que la star hollywoodienne Michael Madsen, vous savez celui qui dans Reservoir Dogs découpe une oreille au rasoir, là vous voulez qu'il tranche la tête d'un poulet au hachoir, eh bien il prend un avion et il le fait. Vous imaginiez twister sur You Never Can Tell de Chuck Berry comme Travolta dans Pulp Fiction ? Consider it done. Mieux que danser, chanter. Comme Travolta dans Grease en karaokant You're the ones that I want avec la très jobérienne Mélanie Bernier. Ben vous savez quoi ? C'est possible. C'est ça que j'aime chez vous, Kev. À chaque fois, vous nous prouvez, pour reprendre le titre de votre spectacle avec Gad Elmaleh, que tout est possible. Et moi, comme vous, Kev, j'ai envie de kiffer. Et je vais kiffer parce qu'avec les potos Charlie, Isabelle, Alex et Guillaume, on va karaoké du Michel Sardou sur France Inter. Parce que yes, oui, Kev, vous êtes prêts ? Même toi, Guillaume ?
Bah évidemment, je suis prêt.
Alors c'est parti.
Dans un voyage en absurdité.
Moi, je suis pas prête, hein, je vous le dis.
Que je fais lorsque je m'ennuie ? J'ai imaginé sans complexe. Qu'un matin je changeais de sexe.
J'en avais un gros.
Que je vivais l'étrange train.
Ça fait kiffer les mecs. Quoi
d'être une femme digitale. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombie et Carlequin, sachant bien noter sur les gars qui va des grands sourires aux larmes. Tapé de géants balnois, sexy comme autrefois les stars. Être un général d'infanterie, rouler des patins en construit, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur. mettre un flicou en pied de service et donner le sein à mon fils.
Merci Cave de nous rappeler qu'il faut kiffer chaque jour. Je vous redonne rendez-vous dans 7 ans, même jour, même heure, même pomme, et vive le karaoké avec un K comme Kev.
Waouh, c'est beau.
Merci. Alors, merci beaucoup. J'ai écouté tout ça avec beaucoup d'intention. J'ai juste une question.
Ah, oui.
Ça vous a plu ou pas, en fait, au final?
Ça m'a beaucoup plu, et j'aime beaucoup votre démarche à la fois de producteur et de comédien qui allait jusqu'au bout de vos envies et qui les menait à leur terme. Et ça, c'est fabuleux.
C'est gentil. Merci beaucoup, Tom Cruise. Ça me fait très plaisir.
Il y a un regard de producteur aussi sur ce film.
Et merci Michel Sardou, quand même, en passant.
Merci Guillaume d'avoir accepté de relever ce défi.
Ça m'a mis les poils.
Et au peigne fin, toutes les références qui sont dans votre film.
Ah oui, non, il a bien regardé, pour le coup, ça c'est une évidence. Et c'est vrai que je rêvais de tout ça, et c'est vrai que c'était... un vrai bonheur de construire ce film. Et d'ailleurs, on ne l'a pas produit, histoire de le produire, on l'a produit parce que, figurez-vous que, au début de cette émission, vous m'avez dit que vous devez en recevoir beaucoup des scénarios. C'est vrai, j'ai cette chance. Et pourtant, ce n'est pas si facile que ça de monter des films aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, on a créé cette boîte de production, effectivement, pour justement pousser les projets qui nous font rêver. Quoi.
Et puis, en plus, vous êtes parti avec un réalisateur dont c'est la première réalisation, Franck Belloc, qui est votre camarade de la série Soda, qui est également comédien dans Soda.
Exactement, et qui était directeur artistique de la série Soda, donc quelqu'un qui a créé également la série Working Girls sur Canal, qui est un des grands auteurs, un des auteurs mythiques de gros Hollande sur Canal. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, à qui on faisait confiance. Et c'était pas facile de produire ça avec d'autres producteurs, parce que c'est pas facile aujourd'hui de faire confiance à des premiers films. Donc non, moi je suis très fier et de produire et de jouer dans ce film.
Donc demain, en salle, Love Addict avec Kev Adams. Il y a un rappeur qui a décroché le Pulitzer. C'est le Pulitzer de la musique, mais quand même, ce prestigieux prix était d'ordinaire réservé à la musique classique ou au jazz. Avec le couronnement de Kendrick Lamar, c'est le hip-hop qui décroche un Pulitzer. Le prix étant plus connu pour couronner le journalisme. Alors là on, pour les deux, on a un candidat, écoutez.
Gaspard, Melchior et Balthazar étaient tous de sacrés lascars, mais ils n'étaient que des rois mages. Moi, je suis le roi image, le jus, le fraise.
C'est Christophe Barbier, quoi. Yeah. C'est le griot d'Emmanuel Macron. Éditorialiste, hein, politique, faut le dire.
Faut le rappeler.
Le hip-hop qui décroche un prix musical très, très prestigieux. Ça veut dire, Kev Adams, que le monde change. Ça vous enthousiasme, Kendrick Lamar, qui est porté au nu comme ça?
Oui, je m'en fous un peu, je vais pas vous mentir.
C'est vrai,
je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu. Kendrick Lamar est un super rappeur, hein, y a pas de problème, il reçoit le prix Pulitzer, ouais, je trouve ça tant mieux pour lui, quoi.
Un peu tout
c'est
match.
Un peu poussif. Ouais. Vous voyez ce qu'il fait? Vous voyez qui est Kendrick Lamar?
Ouais. Celui
qui
fait moi t'es 4 et 10 1, moi t'es 7 et 20 1, et ben c'était 4 et 7 et 10 1.
C'est ce mec-là, quoi, tu vois. Et puis moi je l'ai vu quand même à la télé aux États-Unis, parce que j'ai la chance d'aller aux États-Unis souvent.
Ouais.
Il était comme les autres rappeurs, hein, à poil sur une piscine avec des meufs à poil et tout ça. Donc je me dis,
ça mérite un prix, hein, moi j'y arrive pas.
alors ça va vous faire marrer, ouais. On peut conclure le sujet en disant le conseil du Pulitzer. Parle ainsi du dernier album de Kendrick Lamar. Il dit « C'est une collection de morceaux pleins de virtuosité, unifiés par l'authenticité de sa langue et une dynamique rythmique qui propose des photos marquantes, capturant la complexité de la vie moderne des Afro-Américains.
Ah » oui. C'est ça que vous n'avez pas vu, Kendrick.
Alors,
attention, il est important de préciser que je ne comprends pas les paroles. Bah oui, parce qu'il parle très très vite, Kendrick. Mais certainement qu'il s'est très bien écrit. Hein.
Mais ça prouve que la pop culture devient vraiment une culture de référence. D'ailleurs, Bob Dylan a eu le prix Nobel de la paix, donc...
De littérature.
Ouais. De littérature.
Oui, oh là là. On va passer au sketch, vous savez quoi, Kev Adams?
C'est Michel Sardou.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Il découvre un rôle. J'avais envie de vous envoyer à la ZAD avec Charline, parce qu'on parle beaucoup de ces gens qui vivent là-bas. On se dit, mais comment ils vivent? Guillaume Meurice, reporter pour BFM TV, rôle de composition, eh bien, viens à votre rencontre.
Superbe.
Et essaye de comprendre la ZAD de l'intérieur.
Oui, alors chers téléspectateurs, je suis en direct de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Casse-toi, journalope.
Bon, calme-toi, pupuche, dis.
J'ai l'impression que les autochtones veulent entrer en contact avec moi.
Tu vas en avoir du contact, viens ici.
Ah, pupuche, tire une taffe plutôt, tiens, détonne-toi, tiens.
Mais pourquoi tu m'appelles toujours pupuche?
Peut-être parce que vous en avez, madame, tout simplement. Hein.
Ah, il est très marin, monsieur FM.
Pardon?
J'imagine que c'est B, ton prénom.
Bon, écoutez, il parle en
BFM.
Code. Ouais, on avait compris. D'ailleurs, on comprend pas pourquoi vous avez l'accent marseillais. Alors,
non,
il parle
parce que
en...
moi, à la base, je suis pas d'ici. Hein. Oui, à la base, moi, je suis à côté de Marseille. Hein. Je suis né à Perpignan.
Ouais, écoutez,
et c'est vrai
je
que
ne
de venir
rien.
Ici soutenir cette cause qui nous est chère, parce que forcément, on en a marre, nous. Les Landes et tout ça, putain, c'est comme à Marseille. On nous laisse faire rien faire de ce pays.
On pige rien. Il parle en code, apparemment.
Ouais, hein, ça va, on n'est pas des Québécois.
Qui sont là, ouais.
Oui. On a ah oh, eh oh, on est des marginaux quand même, dis.
Comment vous appelez, monsieur, vous?
Moi, je m'appelle Camille.
Vous, madame?
Camille.
D'accord, et là c'est vos enfants.
Exactement, ça c'est Camille, le petit c'est Camille, et le grand là c'est Camille. Ah ouais. Oh Camille, viens ici, viens te présenter au journaliste de BFM. Ça c'est Camille et ça c'est Camille. Dis donc, comment on l'appelait la petite déjà?
Bah Camille.
Eh c'est ça, tiens, c'est Camille.
Mais attendez, pourquoi tout le monde s'appelle Camille ici?
Mais on refuse d'être fiché par l'état civil.
Oh, attendez, oh la vache, qu'est-ce que c'est?
Ah ça c'est notre voisin Camille, il aime courir nu en hurlant.
Oui, il fait l'amour à la nature.
Ah oui, donc ok, et là c'est votre hutte, votre
exactement, notre okay. habitation, on l'a construit avec de l'argile, de la paille et des canettes de 8-6, que de la récup.
Et vous laissez vos enfants jouer dans la boue avec les chèvres?
Bah c'est très bon pour leur système immunitaire, attendez, et écoutez France Inter, ils le disent.
On tient à donner aux enfants une éducation non spéciste.
Évidemment, évidemment, bien sûr.
C'est d'ailleurs pour ça que les chèvres, on les a toutes appelées Aymeric Caron.
Oh oui, d'accord, donc on est parti sur plusieurs orgasmes là.
Ah, vous savez, la nature est une femme exigeante, hein, chérie.
Bah, une femme, quoi.
Bon, évidemment, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites pousser ici, par exemple?
Ah bah, de la canne à sucre.
D'accord, et là?
De la weed.
Et là, là, c'est quoi?
De la cannelle.
Ouais, et là?
Toujours de la weed.
D'accord, de la weed, d'accord, ouais. Mais je savais pas qu'il y avait de la drogue sur la ZAD.
Oh ah,
ah, c'est l'orgasme, ça?
Non, ça y est, il a coincé sous une chose souche d'arbre.
Merci Kev Adams d'avoir joué le jeu avec nous.
Et, voilà. Et vous avez bien raison de demander pourquoi l'accent, moi-même je ne sais pas.
Mais si, mais vous l'avez bien justifié, c'est ça.
C'est bon l'inspiration. Kev Adams qu'on peut voir en salle demain dans Love Addict de Franck Belloc avec Mélanie Bernier, Marc Lavoine, Michael Madsen ou Sveva Alviti, entre autres. Merci beaucoup Kev Adams.
Merci
pour
à vous
moment.
De m'avoir reçu, c'était un super moment.
Merci pour nous aussi. On laisse le mot de la fin à cette riche idée de Christian Estrosi, donc à Nice, de faire entrer un flic à l'école.
Rassurez-vous, c'est français. C'est la police française. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît.